Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
Vous l'avez peut-être compris, Franck Ferrand nous emmène aux États-Unis cet après-midi sur Europe 1. Il y a 150 ans, c'était le début de la guerre de sécession. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce que les Américains appellent Civil War, la guerre civile, un conflit d'une violence quasiment sans précédent qui marquait l'entrée du monde dans l'ère de la guerre totale. Vous allez voir que les conséquences de ce conflit sont encore tout à fait sensibles aujourd'hui.
Alors il faut dire que les westerns nous ont habitués à cette guerre entre sudistes et nordistes, mais pour une majorité de Français, c'est une guerre qui reste assez nébuleuse en fait.
Eh bien, si vous voulez, on va essayer de chasser les nuées et de faire en sorte que dans une heure, vous sachiez l'essentiel à propos de cet événement fondateur.
N'hésitez pas donc à poser vos questions via Internet et sur la page Facebook de l'émission.
N'hésitez d'autant moins qu'André Caspi est ici pour m'aider à y répondre. Nous allons donc faire la lumière sur cette guerre de sécession.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Quatre années d'une guerre terrible, préfiguration, je vous l'ai dit à l'instant, de la guerre totale, l'affrontement. En vérité, de deux visions de l'Amérique. D'un côté, la nation urbaine, industrielle, conquérante que nous connaissons, c'est celle qui a gagné la guerre. Et puis de l'autre, un pays terrien, patrimonial, immortalisé par le chef-d'œuvre « Autant en emporte le vent », 3 millions de combattants, dont 2 millions du côté du Nord, soit 3 citoyens sur 4 en âge de combattre, et près de 600 000 morts si l'on compte tout le monde. Ne serait-ce que parce que la Confédération, donc au sud, est esclavagiste, alors que l'Union, donc au nord, est abolitionniste, on va vite se faire à ces termes, vous allez voir, on a tendance aujourd'hui, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique, à prendre parti très vite dans cette guerre de sécession. Évidemment, les bons sont au nord et les méchants sont au sud. Il n'en a pas toujours été ainsi, ne serait-ce que pour des raisons culturelles. Après tout, la Louisiane est restée francophone. Et à l'époque, une majorité, même une grande majorité de Français soutient plus volontiers le Sud. C'est ce que rappelle très opportunément la réédition chez Lem d'un mémoire adressé à Napoléon III par un négociant français de Virginie qui supplie l'empereur des Français à longueur de page et avec beaucoup d'arguments à l'appui qui le supplie de venir en aide à la Confédération, donc au Sud. Ça s'appelle « La France et la guerre de sécession ». C'est un opuscule très intéressant. Alors je ferme la parenthèse. À ce propos, il n'est pas inutile tout de même. Si l'on veut se garder des caricatures, de souligner le paradoxe suivant. C'est que si l'on met un instant de côté la question tout à fait fondamentale évidemment, du droit, pour adopter une vision plus pratique, eh bien à cette époque, les Noirs sont objectivement mieux traités dans les États esclavagistes que dans les autres. Voici ce qu'écrit en 1860, donc je vais encore faire sauter le standard, mais voilà ce qu'écrit en 1860, juste à la veille du conflit, un Écossais qui circule à travers les États-Unis. Je le cite. « Dans le Sud, les propriétaires d'esclaves ne semblent pas avoir d'objection à se trouver tout près de n'importe quel Noir. » En revanche, les hommes du Nord, qui parlent tant de liberté et d'égalité politique, retroussent dédaigneusement les lèvres à la moindre éventualité de contact avec un Africain. Si les États du Nord et leurs habitants, nous dit cet Écossais, témoignaient aux Noirs la moitié ou même le quart de la bienveillance sociale qui leur est généralement témoignée dans le Sud, le problème de l'esclavage serait grandement amplifié. Je précise bien qu'on est là avant la guerre de sécession, qui va totalement modifier tous ces rapports, évidemment. En un mot, ce Charles Mackay, pour le nommer, accuse les nordistes de faire preuve d'hypocrisie et de défendre d'autant mieux la notion d'égalité civique que dans le quotidien, ils se désintéressent totalement des aspects concrets et sociaux de cette éventuelle cohabitation. Du reste, en 1860, une majorité des sudistes est favorable, en théorie, à la suppression de l'esclavage, à condition que celle-ci soit progressive et sécurisée. Je cite le célèbre architecte Frederick Olmsted qui, pour le New York Daily Times, est allé au Texas à plusieurs reprises, mais notamment il a fait là-bas une grande campagne d'information en 1857. Son but était, si vous voulez, de prendre le pouls de la population du Sud. Eh bien, il note, cet Olmsted, il note qu'une majorité de cette population serait favorable à l'abolition, mais qu'elle redoute énormément ses conséquences en termes de sécurité des biens et des personnes. Si vous préférez, les Blancs du Sud vivent dans la peur que les Noirs, une fois libérés de l'esclavage, ne se vengent de toutes ces très longues années de servitude. En tout cas, ce sont des gens qui ont à assumer, quand je dis des gens au Sud, qui ont à assumer un héritage social et culturel extrêmement lourd. Et ça, c'est une contrainte énorme que ne connaissent pas évidemment les habitants du Nord. Pour dire les choses autrement, les sudistes ne sont pas prêts à renoncer à leur vie douce, sereine, pour une question de droit qui, à leurs yeux, est d'autant moins choquante qu'ils sont nés, eux, dans cette société. Ils ont toujours eu des esclaves. Donc, ils connaissent les arrangements au quotidien, etc. En théorie, ils seraient peut-être au même titre que les nordistes, en tout cas une partie d'entre eux serait favorable à l'abolition, mais en pratique, c'est très différent. Vous voyez que la situation réelle est beaucoup moins simple que l'image stéréotypée qu'on aurait tendance à en avoir comme ça si on dit simplement il y a des gens qui sont contre l'esclavage qui vont se battre contre des gens qui sont pour. Or, cette situation complexe, la politique va venir jeter de l'acide dessus. En 1850, on va dire entre 1850 et 1860, dans la plupart des États du Nord, un certain nombre de jeunes politiciens, pleins d'ambition, sont bien décidés à en finir avec la mainmise des partis Whig et démocrates sur l'État fédéral. Eux se veulent les porte-parole un peu des temps nouveaux, d'une modernité urbaine, industrielle, en rupture avec la vieille histoire des premières colonies. Et voilà comment se crée, en 1854, le Parti républicain. Parti républicain qui séduit aussi bien les financiers, les commerçants, les industriels, enfin tout ce tissu du Nord, soucieux notamment de relever les tarifs protectionnistes, que les pionniers du Middle West, vous savez, tous ces fermiers qui sont très en demande de nouvelles aides fédérales. Bref, c'est la vieille histoire du défi et de sa relève. Ces nouveaux défis de la société américaine en pleine industrialisation, les républicains vont se révéler les mieux à même de les relever, et notamment ce parti à ses théoriciens, ses intellectuels, je pense à Emerson, à Lowell, etc., on en parlera tout à l'heure, ce sont eux qui mettent en avant l'abolitionnisme. Et voilà dans quel contexte, donc en 1860, un candidat tout neuf à la présidentielle, le républicain Abraham Lincoln, un homme du Middle West, donne soudain un coup de vieux aux candidats Whig et démocrates. Il y a 8 millions d'électeurs, dont la moitié s'abstient. Lincoln ne remporte que 1 850 000 suffrages, mais avec le système majoritaire, ça lui suffit pour être élu président. C'est le Middle West qui, du reste, a fait la différence grâce à une campagne républicaine qui a stigmatisé les grands planteurs du Sud, qui ont été présentés comme les concurrents, pour pas dire comme les ennemis naturels des fermiers du Middle West. Évidemment, au Sud, Lincoln est considéré comme le diable, c'est un véritable épouvantail. Tout compromis avec lui paraît impossible. Or, la Constitution fédérale, la vieille Constitution des pères fondateurs, dans sa sagesse native, a prévu une solution à ce genre d'impasse. La solution, c'est la sécession pacifique. Les États qu'ils souhaitent peuvent toujours se retirer de l'Union. Problème, économiquement, cette solution peut se révéler désastreuse en termes de débouchés, tant pour le Nord que pour le Middle West. Vous comprenez ce qui va se passer. Après la victoire de Lincoln, 7 États du Sud, en tout cas dans un premier temps, vont faire sécession. Et dès lors, le Middle West, incarné par Lincoln, va pousser à la guerre pour préserver l'union de tous les États. Si on résume en termes de sens de l'histoire, ceux qui sont favorables à l'union et à la liberté se retrouvent donc au Nord et au Middle West. Et puis ceux qui sont favorables à l'esclavage et à la séparation sont au Sud. Il n'est pas très difficile, évidemment, de choisir son camp. Mais si vous tenez compte, encore une fois, des situations objectives, vous verrez que les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas que des méchants au Sud, il n'y a pas que des bons au Nord. Du reste, dans le terrible conflit militaire qui s'amorce, je vous laisse deviner qui a le plus à gagner. Les usines à canons de la Nouvelle-Angleterre ou les grandes plantations qui, au Sud, vont servir de théâtre aux batailles. À l'issue de toute guerre, ce sont évidemment les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et vous l'aurez compris, nous allons essayer aujourd'hui, une fois de plus, de donner un petit peu la parole aux vaincus.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe.
Au cœur de l'histoire vous plonge aujourd'hui sur Europe 1 en pleine guerre de sécession, Franck.
Alors vous avez bien compris, Julia, qu'il y a sept États du Sud qui, après l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence fédérale, ont décidé de faire sécession, de se séparer donc du reste du pays. Ils prennent aussitôt possession de tous les bastions de l'autorité fédérale, les bureaux de douane, les arsenaux, les forts, etc. Ça se passe assez vite, assez bien, à peu près partout, sauf en Caroline du Sud, dont la capitale est Baltimore. En face de Baltimore, il y a un port fédéral, le fort Sumter, et son commandant, le major Anderson, refuse de remettre les clés aux autorités caroliniennes. Aussitôt, évidemment, Washington réagit, Lincoln décide de soutenir Anderson, il lui envoie en tout cas une flottille de ravitaillement, mais les Caroliniens prennent ça pour une offre de renfort, ils adressent un ultimatum au commandant du fort, puis un deuxième qui ne lui laisse qu'une heure avant la reddition. Et évidemment, le commandant refuse, donc c'est un siège dans les formes. Et le vendredi 12 avril 1861, nous y voilà à 4h30 du matin, ça va donc être très bientôt l'anniversaire, le 150e anniversaire, le premier obus de la guerre de sécession est lancé contre le fort Sumter. C'est un véritable duel d'artillerie entre le fort et les assaillants jusqu'au dimanche. Et puis Anderson capitule, évidemment. Il sort, drapeau déployé, accompagné de sa musique qui joue Yankee Doodle. Et le lendemain, Lincoln appelle aux armes les États favorables à l'Union. On peut dire que là, la guerre de sécession vient de commencer.
Vous l'avez dit, Yankee Doodle sur Europe 1.
Alors très vite, quatre États limitrophes du Sud, la Virginie, la Caroline du Nord, le Tennessee, l'Arkansas, vont rejoindre ces sept autres États. Ils constituent ensemble la Confédération sécessionniste. D'ailleurs, elle avait déjà été constituée. Ils s'y rallient plus exactement. En revanche, Lincoln parvient à maintenir dans l'Union quatre autres États limitrophes, dont le Missouri et le Kentucky. Au départ, comme dans toutes ces guerres, les observateurs s'attendent à un conflit court, limité. Du reste, au début, Lincoln ne lève des troupes que pour 3 mois. On se dit, ça va être une opération quasiment de police. Quel est l'état des forces ? La Confédération, donc au sud, 5,5 millions de citoyens et 3,5 millions d'esclaves, 600 000 à 1 million de combattants selon les périodes, avec des moyens pour la guerre qui s'élèvent environ à 2 milliards de dollars, réduits du reste par une forte inflation. Du côté de l'Union au nord, 22 millions de citoyens dans une région ultra-industrialisée déjà, avec 1 million à 1,5 million de combattants, 3 milliards de dollars de moyens pour l'équipement et de surcroît l'équipement et le financement de la guerre évidemment, et de surcroît une armée déjà organisée, même si nombre d'officiers du Sud ont rejoint la Confédération avec leurs arsenaux. Par ailleurs, la force navale est en grande partie aux mains de l'Union, donc du Nord, ce qui va permettre de faire très vite un blocus des côtes méridionales. Vous voyez sans peine où est la puissance de feu, ce qui dans une guerre moderne est toujours tout à fait décisif. Ça ne veut pas dire que le Sud ait été démuni pour autant. Il y a de très bons chefs au Sud, il y a des soldats qui sont particulièrement, sont des paysans pour beaucoup, ils sont très résistants, ils sont plus ailés que ceux du Nord, en tout cas dans les débuts de la guerre. Et grâce à leur coton et leurs exportations, les gens du Sud sont convaincus que les grandes puissances de l'époque, la France et la Grande-Bretagne essentiellement, vont les aider. Ils en sont absolument certains. C'est pas ce qui va se passer en réalité. Par ailleurs, les gens du Sud tiennent des positions défensives. C'est donc une guerre qui, a priori, est moins épuisante que lorsque vous êtes dans une position offensive d'entrée dans de nouvelles contrées. La Confédération est convaincue que le Nord va se fatiguer dans ses assauts. Elle a négligé un facteur essentiel, c'est le facteur Lincoln. Nous en parlerons tout à l'heure avec André Caspi dans la deuxième partie de cette émission. La personnalité du président Abraham Lincoln a joué un rôle essentiel dans toute cette affaire. Face à Lincoln, la Confédération a son propre président, Jefferson Davis. Il a participé à la guerre du Mexique. Il se prend un peu pour un stratège, Davis. Et d'ailleurs, ça va gêner son propre état-major, alors que Lincoln se montre plus respectueux de son état-major, même s'il va jusqu'à limoger assez vite McClellan, qui est considéré comme un peu trop trop prudent, trop timoré dans ses décisions. Sans conteste, le plus grand chef militaire de ce conflit appartient au Sud. C'est le général Lee, évidemment, Robert Edward Lee, très grande figure militaire. Il faudra attendre la fin du conflit pour qu'il trouve en face de lui, en la personne d'Ulysse Grant, un adversaire véritablement à sa mesure.
Oh, I wish I was in the land of cotton, old times there and I've forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland, in Dixieland, where I was born in early on, across the morning. Look away.
Vous parliez du général Lee, Franck, sur Europe 1. Ben voici l'hymne des sudistes, Dixie, voilà. Dixieland.
Alors ça, c'est le côté sud. Côté nord, côté union, il y a un point faible, évident, c'est l'opposition permanente des démocrates qui dénoncent la guerre, en tout cas pour une majorité d'entre eux. Ils reflètent en cela, du reste, l'état de l'opinion. Ils sont assez tièdes, les gens du nord, dans cette guerre. En tout cas, encore une fois, au départ. Du reste, en 1863, l'instauration par Lincoln de la conscription va entraîner de véritables révoltes, hein, des violences. On relèvera notamment à New York que jusqu'à 500 morts. Lincoln ne va cesser de se méfier du Congrès dans toute cette histoire. D'ailleurs, il a mis 3 mois à le réunir en session extraordinaire après la fameuse affaire du Fort Sumter. Lincoln, vous l'avez compris, est un partisan de l'exécutif, surtout dans ces temps de guerre. En tant que commandant en chef, il dispose évidemment de pouvoirs spéciaux étendus. On peut dire que cette période de la guerre civile aura une influence décisive sur l'histoire américaine de ce point de vue et sur la place de l'exécutif. D'une façon générale, elle aura du reste un rôle essentiel sur beaucoup, beaucoup d'évolutions de la société même américaine. Le seul frein de Lincoln, finalement, ce serait la Cour suprême. Côté sud, on aurait pu prévoir un soulèvement des millions d'esclaves qui se trouvaient là, après tout. Eh bien, en fait, alors il y en a une partie, un peu moins de 10% qui rejoignent les rangs du Nord, mais les autres restent fidèles à leur maître. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'on va peu à peu... Plus le conflit avancera, plus on verra des esclaves entrer dans les rangs de l'armée sudiste. Hein. Le problème pour la Confédération est donc ailleurs. Il est dans les pouvoirs très étendus reconnus aux différents États, parce qu'ils se sont dotés d'une nouvelle constitution, ces États séparatistes, évidemment. Et chaque pays, chaque État, évidemment, défend sa propre armée, etc. Et ça crée, évidemment, beaucoup de difficultés. Et puis, vers la fin du conflit, il y aura aussi une lutte très dure, très sourde, entre le président Jefferson Davis donc, et son vice-président, Alexander Stephens. Ils ne s'entendent pas du tout. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. La force du Sud, au moins dans les premières années de la guerre, c'est le moral, je vous l'ai dit, l'enthousiasme, le patriotisme qui va impressionner pas mal de monde, notamment en Europe. Mais sa faiblesse terrible, vous l'avez compris, c'est cette question de l'esclavage qui donne au chef même de la guerre une très mauvaise conscience. Et comme toujours quand on a mauvaise conscience, on s'obstine. Il va y avoir cette espèce d'obstination forcenée des sudistes. Et même si à la fin de la guerre, des propositions sont faites pour affranchir les esclaves qui prennent rang dans les armées sudistes, on peut dire que... Tout le conflit, toute la guerre côté sud aura été évidemment gênée, entravée par ce problème fondamental qui est avant tout un problème humain et philosophique.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Avec Franck Ferrand aujourd'hui sur Europe 1, nous revivons la guerre de sécession.
Alors s'il y a des états d'âme du côté du Sud, il n'y en a pas du tout au Nord. Cette guerre est essentiellement le combat du peuple, clame le président Lincoln. L'Union veut maintenir cette forme et cette nature de gouvernement dont le but principal est d'élever la condition des hommes. Et pour mettre ses actes en conformité avec ses paroles, le président Lincoln proclame le 22 juillet 1862 l'émancipation des esclaves avec une date d'entrée en application très rapprochée, 1er janvier 1863. Comprenez bien qu'à l'intérieur du pays, ça n'a pas eu tellement d'effet, mais ça a eu un très bon effet à l'étranger. C'est à partir de juillet 62, on voit vraiment l'opinion internationale évoluer et passer vraiment du côté du Nord. L'esclavage sera effectivement aboli aux États-Unis le 18 décembre 1865, après la fin de la guerre, bien entendu. Ce sera le 13e amendement. Alors, J'ai passé pas mal de temps au début de ce récit à essayer de vous donner, brosser un tableau du contexte dans lequel s'inscrit cette guerre civile. Et du coup, je n'ai pas encore prononcé le nom d'une bataille. Alors on ne va pas faire d'histoire militaire à ce micro cet après-midi. Sachez simplement, comme teinture, que la première grande bataille du conflit, c'est celle de Bull Run, qui est une terrible défaite pour les fédéraux. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que le général en chef de l'époque, McClellan, est extrêmement prudent. Ça va le rendre encore plus prudent. À partir de 62, c'est le général Lee au sud qui commande donc l'armée de Virginie, dont la capitale Richmond est aussi la capitale de la Confédération, et va peu à peu devenir l'enjeu principal des combats. Du reste, pendant de longs mois, les troupes du Nord vont essayer de prendre Richmond tout en essayant une manœuvre enveloppante du côté du Mississippi. Lee et McClellan s'affrontent de nouveau en 62 à Antietam. Le résultat est indécis, mais il y a tellement de morts qu'on peut considérer que c'est une défaite des deux côtés. Pendant ce temps-là, les forces navales fédérales sont arrivées à la Nouvelle-Orléans qu'elles ont prise. Elles remontent par le Mississippi pour tenter de faire une jonction. Les forces de la Confédération sont finalement coupées par Grant en juillet 63, ce qui n'empêche pas Lee de son côté d'empiler les victoires. Et ça jusqu'à la célèbre bataille de Gettysburg, qui est la plus célèbre des batailles de cette guerre, évidemment, en juillet 63. Victoire pour les fédéraux, mais pas victoire décisive, puisque les confédérés vont parvenir à se retirer en bon ordre. Peu à peu, les sudistes vont devoir évacuer le Tennessee. On voit leur zone d'influence se réduire comme une peau de chagrin. Et alors que le général Grant aurait tendance à s'installer dans une guerre de position et de tranchées, c'est à l'initiative, à la volonté dynamique du général Sherman qu'on devra le coup de force décisif. En avril 1865, Lee devra finir par abandonner la défense de Richmond. Le 9, ce grand soldat avec sa barbe blanche, ce monsieur très courtois, comme ça très élégant, va signer l'acte de reddition face au général Grant, toujours un peu hirsute et débraillé à son habitude. La scène a lieu à Appomattox, en Virginie. C'est fini, la division est terminée, le pays redevient un grand pays uni. L'Union fédérale, le Nord, si vous voulez, Lincoln et les siens vont pouvoir écrire l'histoire. Dans un instant, pardon, juste après le flash de 14h, nous recevrons André Caspi pour revenir sur tous les aspects de cette guerre de sécession.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et on vous retrouve, Franck, sur Europe 1 avec votre invité aujourd'hui, André Caspi, qui est historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis, auteur entre autres de la guerre de sécession, Les États des Unis, chez Gallimard Découverte.
Joli titre, évidemment, André Caspi, le grand spécialiste des États-Unis. Je suis ravi de vous retrouver, André Caspi. J'ai le souvenir de cette nuit américaine que nous avions passée en attendant l'élection d'Obama.
Oui.
Et où nous avions beaucoup, beaucoup de temps pour parler de toutes sortes d'aspects de la société américaine. Alors là, nous faisons donc ce bond de 150 ans en arrière pour parler de cette guerre de sécession. Est-ce qu'on peut dire que tout est né là, que la conscience américaine actuelle a trouvé son creuset dans cette guerre civile ?
Cette guerre civile occupe une place tout à fait particulière dans la conscience nationale. Et je vais vous en donner simplement une illustration. On dit les États-Unis et on ajoute en français le pluriel. Les États-Unis sont une nation. Mmh. Aux États-Unis, on utilisait également le pluriel jusqu'à la guerre de sécession. On disait « the United States are ». Et à partir de la guerre de sécession, on utilise le singulier. Aujourd'hui encore, on dit « the United States is ».
Donc c'est l'acte de naissance de la nation.
C'est la formation d'une nation.
C'est ça.
C'est-à-dire que vraiment, cette fois-ci, les États sont unis, après avoir été profondément désunis pendant toute la guerre.
Et comme toute fondation nationale, ça suppose le triomphe d'un principe sur un autre. Et là, en l'occurrence, d'une certaine mentalité, celle plutôt du Nord-Est sur celle du Sud.
Et vous savez, on ne peut pas dire que la guerre de sécession soit une guerre idéologique. Et vous avez très bien fait de montrer que, au départ, du moins, ça n'était pas l'esclavage qui était au centre de la querelle. Moi, je dirais que c'est une guerre culturelle. culturelle parce qu'elle oppose véritablement deux cultures. Il y a d'une part la culture du Sud, qui est essentiellement marquée par la présence des planteurs, par l'importance des productions agricoles, en particulier le coton. Et d'autre part, il y a la culture du Nord, qui, elle, est plus ouverte sur le monde, encore que... Il faut toujours nuancer.
Les relations diplomatiques de la Confédération du Sud étaient très actives.
Les producteurs de coton ont besoin du libre-échange. C'est-à-dire qu'ils vendent aux Anglais. Tandis que les nouveaux industriels du Nord, eux, ils ont besoin de la protection. Et du coup, établissent des droits de douane qui sont particulièrement élevés. Alors, on est là dans deux cultures complètement différentes. Le problème noir intervient, mais de manière secondaire, au moins pendant les deux premières années de la guerre.
Finalement, la guerre s'idéologise à partir de 1863 et sous l'influence de qui ?
Comment ? Alors, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir comment les Américains peuvent avoir des alliés en Europe. Les Français, en particulier Napoléon III, les Français sont...
Napoléon III qui en profite pour intervenir tranquillement au Mexique.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que les Français utilisent cette guerre en pensant qu'elle va affaiblir les États-Unis dans leur ensemble et que du coup, l'aventure mexicaine, dont la France est le principal acteur, l'aventure mexicaine va être possible. Et c'est la raison pour laquelle Napoléon III intervient dans les affaires du Mexique. Ce qui veut dire que, d'un autre côté, vous avez les Anglais qui, eux, sont partagés. Bon, c'est vrai, ils ont des intérêts communs avec les sudistes, mais en même temps, il y a une opinion qui est plutôt favorable à la libération des esclaves, d'autant plus que les Anglais ont été parmi ceux qui ont fait appliquer l'interdiction de la traite dès 1831. Donc, il n'y a plus de traite à ce moment-là, dans l'Atlantique. Alors, pour les Américains, comment faire donner à leur cause la sympathie venant d'Europe ? Eh bien, il est évident qu'ils la cherchent du côté des Anglais. Et lorsque Lincoln lance cette proclamation d'émancipation en juillet 1862, applicable le 1er janvier 1863, il pense à l'Angleterre. Mais rassurez-vous, cette émancipation n'a strictement aucun effet.
Et pour cause.
Parce qu'elle ne peut s'appliquer que dans les États qui ont été libérés par l'armée fédérale. Or, à ce moment-là, il n'y en a pas.
Voilà. Donc c'est assez
théorique.
C'est
la raison pour laquelle
évidemment
L'abolition de l'esclavage est postérieure à la fin de la guerre.
Par ailleurs, je me fais l'écho d'une question très intéressante. Pourquoi, après avoir aboli l'esclavage, n'est-on pas allé plus loin ? Il faudra attendre encore un siècle pour les lois sur les droits civils.
Parce que, vous savez, les Américains de cette époque considèrent que la libération des esclaves, c'est une chose, mais l'intégration des esclaves, c'en est une autre. Et en conséquence, on pense que les Noirs libérés parviendront difficilement à survivre parce qu'ils ont l'habitude d'être dans la dépendance de leur maître blanc. Et même peut-être, si certains de ces Noirs s'en allaient, par exemple en Afrique, s'ils s'en retournaient en Afrique,
d'où ils viennent,
et notamment au Libéria,
voilà, c'est assez...
le mot Libéria l'indique bien, eh bien, ce serait quand même pour les Américains un bon débarras.
Ça les arrangerait bien.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Du film de Victor Fleming, Autant n'emporte le vent, composé par Max Steiner, Franck.
Alors, comme me disait André Caspi il y a un instant, sans carte sous les yeux, il est très difficile de revenir sur les éléments militaires du conflit. En revanche, on peut peut-être dresser un portrait des principaux acteurs, à commencer par ce général Lee, qui est le grand personnage, en tout cas pour la Confédération, au Sud.
Les sudistes, au début de la guerre, étaient optimistes. Non seulement parce que ils détenaient une richesse qui, à leur avis, était déterminante, le coton. Mais aussi parce qu'ils avaient des chefs militaires de toute grande valeur, de très très grande valeur. Et ces chefs militaires sont de très grande valeur parce qu'ils ont étudié les guerres napoléoniennes. C'est-à-dire qu'il y a une très forte influence de la stratégie de Napoléon qui a été diffusée aux États-Unis à West Point par l'intermédiaire d'un général napoléonien d'origine suisse qui était Jomini. Ce qui veut dire que les sudistes pensent qu'il faut utiliser les masses militaires, les lancer contre l'adversaire et que là où l'ennemi est le plus fort, c'est là qu'il faut attaquer. C'est la raison pour laquelle, dans bon nombre de ces batailles, les morts sont extrêmement nombreux des deux côtés. Et alors, on assiste à une guerre totale parce que...
On peut dire que c'est la première du genre.
C'est la première des guerres totales parce que d'abord, on construit des tranchées, on creuse des tranchées. D'autre part, on utilise déjà les premières mitrailleuses. Troisièmement, on utilise à fond les chemins de fer et notamment l'armée du Nord. Et puis enfin, c'est aussi l'une des grandes guerres qui a été photographiée. Alors, ça n'est pas la première, parce que la première, c'est la guerre de Crimée. Mais la guerre de sécession a fait l'objet de très nombreux reportages photographiques.
D'ailleurs, en ce moment, est très pratique, si je puis dire, pour cette commémoration, puisqu'on a à longueur de magazines, de très belles photos de cette guerre, terrible d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Alors, ce ne sont pas des photos en mouvement, ce sont des photos à l'arrêt. Mais,
oui.
Mais en même temps, elles portent témoignage de la dureté des combats et du nombre très élevé de morts. Car au total, il y a eu plus de 650 000 morts dans cette guerre, ce qui veut dire que si vous additionnez toutes les guerres auxquelles les États-Unis ont participé, vous arriverez à un total inférieur aux morts qui sont tombés pendant la guerre de sécession Nord et Sud. Alors c'est dire l'importance de ces chefs militaires. Vous citiez le cas du général Lee. Lee est en effet l'un des plus brillants stratèges américains. Et il a fait ses études à West Point. Et il connaît, si vous voulez, la stratégie sur le bout des doigts. Donc c'est un homme sur lequel les sudistes comptent. En face, vous avez McClellan qui en effet est un peu timoré. McClellan, c'est le général qui veut protéger son armée. C'est-à-dire
un peu à l'ancienne.
Ouais, c'est un général qui ne veut pas l'engager de peur qu'il y ait des pertes. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une armée que l'on veut conserver. Et puis, à partir de 1862-63, McClellan est remplacé par le général Grant. Alors, ça, c'est un autre cas, c'est un général qui, en effet, n'a pas le port aristocratique de Robert Lee, qui a eu une vie extrêmement dissolue, qui a beaucoup bu. Lorsqu'il a enfin un grade dans l'armée, son père lui dit « Surtout, garde-le, parce que on ne sait jamais avec toi ce qui peut arriver. » Mais Grant se révèle également comme un meneur d'hommes de toute première catégorie, ce qui fait qu'il y a cette opposition entre deux généraux qui ont appris la stratégie à peu près dans les mêmes livres, qui ont appris la stratégie à peu près dans les mêmes écoles et qui, en somme, se livrent un combat particulièrement acharné. Alors, à côté de cela, il y a aussi le général Sherman que vous avez cité et qui, lui, entreprend une marche forcée à travers les États du Sud et pour arriver notamment jusqu'à Atlanta. Et là, le général Sherman, c'est la stratégie de la terre brûlée. C'est-à-dire que partout où il passe, il détruit tout. Alors évidemment, c'est une autre manière de faire la guerre. C'est ce qui explique en somme que cette guerre ait laissé des souvenirs particulièrement douloureux dans les États du Sud, souvenirs qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Bien sûr, avec une espèce de nostalgie propre à ce Sud profond. Et une guerre qui a aussi laissé des souvenirs très personnels, puisque les figures que vous venez d'évoquer, les généraux Lee, Grant, Sherman, etc., font vraiment partie aujourd'hui des figures familières des Américains, 150 ans plus tard.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et jusqu'à 14h30 sur Europe 1, nous revivons la guerre de sécession avec vous, Franck, et vos invités.
Ce conflit majeur, cette guerre de sécession, elle a été vécue, analysée, elle a été restituée par un observateur de choix, le prince Philippe d'Orléans, comte de Paris, l'un des petits-fils de Louis-Philippe. À cette époque, les princes de la maison d'Orléans subissaient, vous savez, la loi d'exil, et le comte de Paris, avec son frère, le duc de Chartres, son cousin, le duc de Penthièvre, et son oncle, le prince de Joinville, donc tous les quatre débarquent aux États-Unis par un beau soir de septembre 1861, septembre 1861, autant dire 5 mois après le déclenchement de la guerre civile. Ils sont reçus par le président Lincoln, le comte de Paris est affecté à l'état-major de McClellan, qui est le chef de l'armée du Potomac dont on parlait tout à l'heure, et le comte de Paris va tenir un journal extrêmement précis des événements, un document magnifique que viennent de publier pour la première fois, c'est un inédit, les éditions Perrin, dans une édition établie, commentée, présentée par Farid Hammer. Farid Hammer est avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des États-Unis et chargé de cours à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ce voyage en Amérique, comme vous l'avez baptisé, du comte de Paris, on le connaissait depuis longtemps et on ne l'avait encore jamais édité.
Absolument. C'est un texte en fait qui se trouvait dans les trésors des archives nationales. Alors il fallait une autorisation spéciale.
Mais voilà, c'est ça, oui. Il était...
J'ai réussi, grâce au concours de la Fondation Saint-Louis, qui gère aujourd'hui les intérêts de la famille d'Orléans, donc d'avoir accès à ces documents totalement inédits. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce journal qui est pour moi digne de Tocqueville.
C'est ça, c'est un bon. Alors, digne de Tocqueville, pour ce qui est du style, peut-être pas tout à fait, quoique il y a de très très belles, il y a de très beaux morceaux de bravoure dans ce journal.
Absolument.
Et il y a, c'est vrai, un sens aigu de l'observation. Rien n'échappait à ce jeune comte de Paris. Quel âge avait-il exactement à ce moment-là ?
Le comte de Paris avait tout juste 23 ans.
Oui.
Il était, comme vous le savez à l'époque, le prétendant orléaniste au trône de France. Mm-hmm. Et c'était quelqu'un de solidement instruit, bien sûr, doté d'une très grande ouverture d'esprit.
Il était le fils du défunt duc d'Orléans, donc de l'ancien héritier du trône du temps de Louis-Philippe.
Et qui, donc, le comte de Paris étonnait déjà tous ses collaborateurs par sa puissance de travail, son excellente mémoire, et aussi par le calme de son caractère et sa volonté de faire. Il était tout le contraire de son frère cadet, le duc de Chartres, qui, lui, au contraire, était impétueux, plein d'énergie et de jovialité, qui était un soldat en l'âme.
Oui, là, il y a beaucoup de maturité, au contraire, effectivement, chez ce frère aîné, chez ce Philippe d'Orléans. Un sens de la psychologie également, qui est assez remarquable.
Oui, tout à fait. En fait, le comte de Paris sentait très très bien les choses.
Et les gens, oui, vraiment.
Il sentait très très bien les choses, très bien les gens. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans ce texte, c'est sa hauteur de vue, alors même qu'il est au cœur de la conflagration et qu'il est vraiment aux avant-postes. Il est vraiment au premier loge du combat, puisque, comme vous l'avez dit, il était aide de camp du général McClellan, qui était le commandant-chef de l'armée du Potomac, c'est-à-dire la principale unité combattante nordiste de l'époque. Et au cœur même des affrontements, il va toujours quand même garder la tête froide, si j'ose dire.
Farid Hammer, est-ce qu'il y a aussi un stratège en herbe chez ce prince français ?
Alors, le comte de Paris n'était pas prédisposé, en fait, au métier des armes.
Certes.
Mais ça a toujours été un complexe chez lui. Pourquoi s'est-il engagé ? Il voulait d'une part donner la preuve de ses inclinations libérales et évidemment il voulait entrer dans la tradition militaire familiale. Mmh. Et tout au long de ce texte, il y a l'obsession pour lui de recevoir le baptême du feu, noblesse oblige.
Oui, mais
son petit frère, lui, l'avait déjà reçu puisque le duc de Chartres, toujours en quête d'aventure et de renommée, avait déjà fait le coup de feu en 1859 pendant la guerre d'Italie.
C'est ça. Et on voit chez ces princes de la maison d'Orléans la volonté de s'inscrire dans une vraie tradition. Vous avez raison, évidemment, l'arrière-grand-père de Philippe d'Orléans, Philippe Égalité, et puis son fils, donc le grand-père du prince, avait combattu dans les armées de la République. Lui est du côté des... Évidemment, il est nordiste dans l'âme.
Ah oui, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Il est nordiste, il le dit, mais en même temps, il est pour le rétablissement de l'Union, qui a toujours été une alliée de la France, et pour lui, servir par les armes la cause de l'Union, c'est, si vous voulez, s'inscrire dans le dernier ouvrage de l'Ancien Régime.
Merci en tout cas d'avoir porté au jour ce document, ce voyage en Amérique du prince Philippe d'Orléans, comte de Paris. C'est édité chez Perrin en coédition avec la Fondation Saint-Louis et c'est un regard particulièrement incisif sur cette guerre de sécession. Merci Farid Hammer.
Je vous en prie, merci, au revoir.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Il nous reste très peu de temps, hélas, et nous ne pourrons pas faire le tour de cette vaste question de la guerre de sécession, dont on célébrera dans quelques jours le 150e anniversaire du début des hostilités. Mais grâce à vous, j'aimerais qu'on évoque, André Caspi, j'aimerais qu'on évoque sa postérité à cette guerre. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont les enfants de cette guerre de sécession?
Je dirais que la guerre de sécession a exercé 4 types d'influence sur les États-Unis d'aujourd'hui. Premièrement, c'est le moment du renforcement du pouvoir exécutif. Lincoln est le premier président des États-Unis qui ait véritablement exercé un très grand rôle, beaucoup plus encore bien sûr que ses prédécesseurs. Deuxièmement, c'est aussi le moment où les Noirs ont été libérés. Ce qui veut dire que ça a laissé des traces dans la conscience américaine et que beaucoup de conservateurs, aujourd'hui, dans les États du Sud ou ailleurs, se réfèrent à la guerre de sécession pour souligner les droits des États et par conséquent s'opposer à Washington. Troisième influence, c'est le moment aussi où le président des États-Unis, à peine est-il victorieux, puisque vous avez rappelé qu'Appomattox date du 9 avril, est assassiné 5 jours plus tard. Lincoln est le premier président des États-Unis à être assassiné. Il y en aura 3 autres après, dont, bien sûr, John Kennedy. Ça veut donc dire que Lincoln devient le martyr de la République. Et en fin de compte, la dernière influence de la guerre de sécession, c'est cette crainte qui existe aux États-Unis de la division. La division, c'est-à-dire cette opposition entre des communautés qui ne parviennent pas à s'entendre, qui finissent par se combattre et qui aboutissent à de véritables massacres. Autrement dit, la guerre de sécession, c'est ce qu'il faut éviter.
Et c'est le spectre qui fait peur encore aujourd'hui.
Et ça n'est pas tout à fait par hasard que les Américains l'appellent la guerre civile. Rien n'est plus affreux qu'une guerre civile. Ce sont des Américains qui combattent des Américains. Ce sont des Américains qui tuent des Américains. C'est-à-dire que c'est le contraire même de l'unité nationale. Donc cette référence à la guerre de sécession a essentiellement pour but de renforcer l'unité des États-Unis.
Merci infiniment pour cette synthèse brillantissime, André Caspi. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage dans la belle collection Découverte Gallimard, La guerre de sécession, les États des Unis. Merci à toute l'équipe, merci à Lorena, à Guillaume, à Nicolas. Nous nous retrouvons lundi, Julia.
Avec grand plaisir.
Et maintenant, nous retrouvons Faustine Bollard qui vient juste de s'installer.
Bonjour,
elle a installé ses petites affaires. Bonjour, Faustine.
J'étais presque en retard, mais je suis là. Merci. Bonjour à tous. Deux sujets au sommaire de notre émission consacrée à l'amour en ce vendredi. Dans un premier temps, nous allons parler de ces hommes et de ces femmes qui n'ont jamais été amoureux. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, vous vous sentez bien, vous avez des vraies relations affectives, mais vous ne savez vraiment pas ce que c'est que ce sentiment d'amour, d'être vraiment amoureux au fond de vous-même. Dans un deuxième temps, on va évoquer la plus belle déclaration d'amour, à savoir le « je t'aime ». Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase attendue ou redoutée en fonction des gens? Et si ces mots, derrière ces mots, on découvrait une multitude de stratagèmes, vous allez voir que c'est beaucoup moins joli qu'on ne pense, un je t'aime, on va en parler. Venez nous parler d'ailleurs de vos plus beaux je t'aime. Pour ça, il suffit de nous appeler au 3921 ou de nous écrire également faustine.europe1.fr. Franck.
J'ai noté l'adresse. Merci Faustine.
Merci Franck.